Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette deuxième session de l'après-midi, donc sur les nouveautés de Windows Azure. Une petite précision sur la session. On va se concentrer majoritairement donc, sur les nouveautés de Windows Azure donc, depuis la dernière PDC de Microsoft, donc avec toutes les nouvelles annonces sur la plateforme Windows Azure, et en particulier surtout sur les attraits développement. Même si Azure aujourd'hui est une plateforme d'infrastructure. Il y a aussi beaucoup de fonctionnalités qui permettent justement l'extension des applications que l'on va venir déployer à l'intérieur du cloud. Et c'est sur cette partie-là que je vais me concentrer aujourd'hui. Alors, pour commencer, un petit slide de présentation de Cambridge Technology Partners, donc ma compagnie. Nous sommes basés en Suisse donc depuis 1996. Nous avons une forte présence locale avec plus de 200 consultants. Et nous sommes très orientés au niveau donc, du conseil management et conseil en IT. Donc un petit peu aussi ce pourquoi je suis là aujourd'hui sur, j'allais dire, des développements à haute valeur ajoutée, donc dans le cadre d'Azure en particulier. Alors, l'agenda. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces fameuses nouveautés. Alors, dans l'ordre, on va les réénumérer au fur et à mesure qu'on ira à travers ces nouveautés-là. Donc, le nouveau portail, Windows Azure Diagnostics, donc le fait de pouvoir investiguer et loguer des informations sur ces applications lorsqu'elles sont dans le cloud. Le full IIS, donc, qui est une version IIS, mais dans le cloud. Je rentrerai un peu plus dans les détails plus tard. Le CDN, donc Windows Azure CDN, donc le Content Delivery Network fourni dans la plateforme Azure. Les Elevated Privileges, donc, qui est une manière de pouvoir lancer du code dans le cloud avec des permissions élevées pour faire des manipulations au niveau du système. Je reviendrai plus en détail. Et enfin, le Marketplace et le Data Market. On va commencer tout de suite. Tout d'abord, alors, le fameux nouveau portail. Alors, qui dans la salle s'est déjà servi d'Azure, j'aurais tendance à dire, sur l'année qui vient de passer, en tant que plateforme de développement? D'accord. Deux personnes. Donc, ces personnes-là doivent reconnaître un petit peu cette interface, donc, qui est l'interface de base donc, de Windows Azure avant la mise à jour. Très, j'allais dire, HTML, pas forcément génial, mais bon, qui au moins fait ce qu'il est censé faire. Depuis peu de temps, donc depuis la release, depuis la PDC 2010, donc de l'an dernier. On a une nouvelle interface donc entièrement en Silverlight, donc qui atteint mieux les besoins principaux, donc qui est de pouvoir monitorer l'environnement Azure. Et pour ce point-là, petite coupure de micro. Donc, les quelques points donc, que j'ai notés ici qui sont importants, donc la possibilité de gérer à travers un seul portail, ce qui n'était pas le cas avant, les hosted services, donc les machines, les rôles que l'on va déployer dans Azure. Le storage, les VM roles et le CDN, donc qui sont aussi des blocs qui font partie du management. Donc la gestion des utilisateurs, chose qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire je suis admin d'une subscription, je veux ajouter un autre admin parce que, imaginons que je pars en vacances et qu'il y a besoin que quelqu'un d'autre s'occupe un petit peu des VM quand je ne suis pas là pour savoir un petit peu comment ça se passe, déployer des nouvelles applications et autres. Les bases de données SQL Azure, donc toujours directement à l'intérieur du portail. À la fois au niveau du management des serveurs eux-mêmes, des databases et la création de contenu. On verra ça tout à l'heure. Donc les données dans SQL Azure, c'est ce que je viens de dire à l'instant. SQL Azure Reporting Services, donc le fait de pouvoir embarquer des reports au sens où vous les faisiez déjà avant à travers SharePoint, ou à travers des solutions .NET custom à l'intérieur du cloud. Et enfin, SQL Azure Connect. On va commencer tout de suite avec une petite démo. J'ai pas gardé le. Hop là. Donc on va venir charger ce fameux portail. Voilà donc la version live de la capture d'écran que je vous montrais juste avant. Donc ici, on va venir rapidement donc sur Hosted Services, Storage Account and CDN. Donc typiquement ici, on va pouvoir donc sur cet écran d'accueil voir un petit peu les instances qui sont lancées, leur état, etc. Les Affinity Groups, pour ceux qui en ont entendu parler, donc c'est la possibilité de créer des groupes par région et de venir mapper ces applications dans un Affinity Group plutôt de se dire à chaque fois, ah, je l'ai mis où? Est-ce que je l'ai mis en Europe? Est-ce que je l'ai mis aux États-Unis? Etc. Les Hosted Services, donc là, je dirais la partie vraiment cœur de cette partie-là. Donc là, typiquement, une démo que j'ai déployée, donc c'était PTECHDS 2011 pour l'occasion, qui contient un web role et ce web role a une instance, donc qui est démarrée. Et on voit qu'elle a démarré le 5 avril. Voilà. Donc, ensuite, le fameux storage account. Donc ici, on voit que je n'en ai qu'un seul. Donc le storage, donc au niveau des blobs, des tables et des queues. Je ne vais pas rentrer dans les détails en particulier, mais voilà. Ensuite, le fameux user management, je ne vais pas m'étendre dessus non plus, venir ajouter des utilisateurs en fonction de leur live ID, qui est le mode de connexion standard à Windows Azure. Les VM et enfin le CDN, donc le fait de pouvoir exposer du contenu à la fois disponible dans les blobs ou sur un service hosted directement au niveau du CDN de Microsoft. On passe rapidement sur la partie database. Donc ici, on voit que j'ai un serveur. Donc on peut venir regarder ici, par exemple, que j'ai un certain nombre de firewall rules qui va me permettre justement d'accéder depuis l'extérieur à ce serveur. Bon, là, j'ai été un peu violent, j'ai mis la totalité des adresses pour être sûr de pouvoir me connecter depuis ici. Et ensuite, donc on voit ici les différents databases. Donc ici, pour le coup, je vais venir en sélectionner une et je vais cliquer sur Manage. Donc l'avantage ici, donc c'est que là, j'ouvre le fameux Project Houston que vous avez dû voir sur le slide précédent. Donc là, je suis un petit peu comme dans SQL Server Management Studio, sauf que je suis dans un browser. Donc là, c'est du Silverlight, donc une application Silverlight. Je vais juste venir me loguer. Et donc là, je rentre dans mon serveur SQL. Donc toujours dans le cloud, absolument rien installé sur la machine, etc. Donc administration complètement distante. Donc là, vraiment pour la démo, j'ai fait une table. Tout ce qu'il y a de plus basique avec un certain nombre de records. Et voilà les types que l'on peut déclarer à la volée. On peut venir ajouter des colonnes, etc. de manière dynamique. Voilà. Ensuite, donc la partie reporting, je ne vais pas m'étendre dessus puisque mon sign-up n'a pas encore été accepté, malheureusement. Le service bugs et l'access control, ça c'est la partie App Fabric. Donc, un collègue dans la session juste après moi va en parler beaucoup plus en détail, donc je vais éviter de lui manger son travail. Et enfin, donc la partie Azure Connect que je vais évoquer rapidement, c'est une partie intéressante parce qu'elle permet en fait, lorsque vous êtes au sein de votre entreprise, de créer un tunnel privilégié en fait entre un de vos serveurs. Donc vous installez un plugin sur votre serveur et une fois ce plugin installé, ce plugin va permettre de créer un tunnel entre votre machine et les machines dans le cloud. À quoi ça peut bien servir? C'est pour des raisons, par exemple, d'accès particulier à certains ports ou à certains types de services directement sur la machine Windows Server hébergée dans le cloud, que l'on va pouvoir réaliser comme ceci, au lieu de passer par des services WCF ou des choses comme ça qui, elles, vont pouvoir s'exposer de manière standard à travers le web. Ça évite aussi d'exposer ces services sur Internet. Donc voilà pour la démo du portail. On va revenir à la présentation. Voilà, donc nous allons passer rapidement donc, à Windows Azure Diagnostics. Donc cette partie-là existait déjà depuis le début en fait dans Windows Azure. Donc le fait de pouvoir monitorer ses serveurs et récupérer des logs déjà liés à ses applications. Donc de nombreux types de logs accessibles, je vous ai mis la liste ici. Donc, tous les types standards, donc les logs Windows Azure, ceux de 2IS ou les Windows Event Logs, qui sont les plus habituels en général lorsqu'on fait du monitoring, avec en face le type de stockage qui est utilisé. C'est-à-dire que lorsque on va spécifier sur un rôle, je veux récupérer tel type d'information, automatiquement, on va avoir des tables ou des blobs qui vont venir se créer à l'intérieur de SQL Azure, de Windows Azure, pardon. Pour après venir récupérer leur contenu et les exploiter. Ou les parser directement depuis un autre web role, par exemple. On peut, comme le voir aussi dans cet exemple-là, j'ai bien noté en bas Custom Error Logs, on peut très bien dire à Windows Azure Diagnostics, regarde dans ce répertoire-là ou regarde ce fichier en particulier, et lorsque le fichier change ou que le contenu du dossier change, prends ce qu'il y a à l'intérieur en fonction d'un certain buffer, par exemple, on va dire 2 mégas, et tous les 2 mégas, tu prends ce qu'il y a dedans et tu le pousses au niveau du storage pour qu'on puisse le récupérer en dehors de l'instance. Donc, configuration, modification depuis le code, ça a toujours été le cas. Et la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir le configurer à partir d'un fichier XML. Donc, juste un schéma a été introduit à l'intérieur du dernier SDK. Donc, on a un descriptif XML où on va pouvoir dire je veux tel type de log, la taille maximum qu'on lui autorise, le type d'événement qu'on veut récupérer. Et on va voir ça juste après. Nous y voici. Je vais revenir. Ici, voilà, j'avais préparé pour l'occasion une petite démo. Voilà, donc là, on ne voit pas très très bien. Alors, on va faire ça comme ça. Donc, typiquement, ici, on voit que je vais demander donc, le Windows Event Log. Donc, c'est l'entrée que je vais essayer de récupérer. Je lui donne le buffer à récupérer côté serveur. Je lui donne le type de niveau et le transfert de période, donc qui est un type encodé, qui me dit là pour l'exemple, toutes les minutes, va récupérer ce contenu au niveau des Windows Event Log et met-le à l'intérieur de la table Windows Azure. Donc c'est dans une table pour ce qui est du Windows Event Log. Et la dernière chose, en fait, je lui dis au niveau des data sources, récupère-moi tout ce qui est logué au niveau application, c'est-à-dire typiquement les événements système. Je ne vais pas venir y toucher, je m'intéresse uniquement aux événements qui ont été générés par mes applications, pour les messages de mon application. Donc ici, je vais venir juste ouvrir, donc là, très très simple, j'ai vraiment juste créé un worker role. À l'intérieur, j'ai mis un thread sleep de 10 secondes, ce n'est pas très propre, mais c'est juste pour démontrer la fonctionnalité. Et j'appelle l'event log, donc j'écris dans l'event log au niveau de mon rôle. Et là, c'est ces éléments-là, pardon, qui vont être récupérés et ensuite mis au niveau de la table Azure. Donc là, j'appuie sur F5. Donc comme à notre habitude, tout ça se package donc avec la dev fabric donc, qui est local à la machine sans forcément avoir à utiliser le cloud. Donc je peux venir interagir avec le storage et débugger ma solution directement depuis Visual Studio en local. Toujours un point intéressant. Donc ici, je vais juste venir vous mettre un point d'arrêt pour bien voir que ça fonctionne. On va attendre un petit peu. Voilà, il s'arrête. Très bien. Je vais l'enlever parce que sinon, il va s'arrêter toutes les 10 secondes. Ça risque d'être un petit peu embêtant. Et je vais venir lancer ici donc un petit programme qui est disponible sur CodePlex qui s'appelle Azure Storage Explorer, qui est en fait un navigateur tout prêt qui permet d'aller regarder le contenu à l'intérieur d'un storage Azure. Donc typiquement ici, je vais lui demander d'aller voir le storage local. Je vais aller regarder les tables, ici. La minute n'est pas encore écoulée, donc on va attendre un petit peu. Donc ici, tout simplement, ce qui va se passer, pour revenir peut-être au slide que j'ai montré juste avant, ici, lorsqu'on fait appel au log Windows Event Logs, on a le Windows Event Logs Table, donc qui est la table par défaut qui est créée par Windows Azure, lorsqu'on lui demande de récupérer des events de type Event Log à l'intérieur de Windows Server, le host de notre application. On va espérer que c'est bon. Non, il n'est toujours pas mettre la table. Ah, décidément. On va peut-être le laisser tranquille 5 minutes. Ah, petit faux contact. Décidément, il n'a pas envie. Bon, j'aurais pas pu vous montrer le résultat, c'est dommage. C'est l'effet démo. On va venir malheureusement arrêter ça. Hop. Et on va revenir à notre slide. Donc on change de sujet. Donc full IIS. Donc pour ceux qui les deux personnes de tout à l'heure qui se sont servies donc un petit peu de Windows Azure, jusqu'à avant cette feature, lorsqu'on déployait un site web à l'intérieur de Windows Azure, malheureusement, un site web égalait un rôle. C'est-à-dire qu'on ne pouvait héberger malheureusement qu'un site à l'intérieur d'un web rôle. Ça a changé donc avec cette feature Full IIS. L'avantage, donc Full IIS, je veux bien dire ce que ça veut dire. Vous avez la totalité de la flexibilité de la plateforme de 2IS, c'est-à-dire la création de sites multiples, embarquer des web apps à l'intérieur et des virtual directory à l'intérieur donc de Azure. Donc ça, c'est juste le nom de l'ancienne version, donc le host à l'intérieur de la machine Azure déployée qui hostait le site web. Donc, la nouvelle version basée sur 2IS, on peut héberger plusieurs sites à l'intérieur de ce web role, et le fait de pouvoir aussi héberger des services non HTTP, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc là, juste un petit graphique pour vous montrer, vous voyez donc la différence entre avant et après, où justement on a plusieurs processus W3P qui sont possibles avec des sites différents. Donc on continue dans la même lignée, ça c'est, je pense que vous auriez compris la troisième démo. On va avoir à chaque fois un set de définition par rapport à la feature et une petite démo qui va venir accompagner l'illustration. Non, j'ai pas du tout ce que je voulais faire. Hop, 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 hop. Décidément. Donc nous revenons au niveau des démos. Allons voir notre Full IIS. Donc ici, toujours un petit peu le même principe. Donc fichier de config XML. Donc ici, un fichier de config assez conséquent. Donc on peut voir sur la partie droite ici, donc j'ai créé 4 sites, pardon. Donc le site principal, donc WebRoll, qui est le site original qui a été créé avec la solution Azure. Un second et un third, donc deux autres web apps. Ainsi qu'un website. Donc pour bien montrer que ce soit une web application ou un website au niveau d'ASP.NET, ça ne pose pas de problème plus que ça. Donc une fois que j'ai eu fait ça, on va venir regarder ici. Donc j'ai bien mon site web, donc qui est le premier. À l'intérieur de celui-ci, j'ai créé une virtual application, donc subsites, qui va contenir l'application donc au niveau du path relationnel, donc second web app, point, point, slash. Même chose pour les assets, donc on va dire un certain nombre de fichiers que je pourrais vouloir hoster dans un même site mais qui seraient partagés au niveau de tous les sites que je vais pouvoir utiliser. Et donc un petit peu la même chose en dessous, avec une toute petite différence ici, le fait de dire que la deuxième application, elle hoste la troisième web app que j'ai créée, et que ici, vous voyez, je lui ai spécifié un host header, donc exactement comme dans 2IS, pour ne répondre uniquement qu'aux appels qui correspondent à cette URL, puisque on est dans les deux endpoints, donc le premier et le deuxième, sur le port 80. Donc il faut bien une manière pour 2IS de distinguer quels appels sont les appels sur le port par défaut sans header et ceux qui sont des appels avec host header. Voilà. Je vais venir, donc comme tout à l'heure, appuyer sur F5. Donc ici, je vais avoir mon navigateur qui va venir s'ouvrir. Allez, voilà. Donc ici, la première application. Donc j'ai juste noté pour la subtilité, donc en haut, je vais vous montrer sur une des pages, elles sont toutes les mêmes. En tête de page ici, je suis venu noter donc le nom du web role concerné, donc dans ce cas-là, le second web app, et la récupération de la variable d'environnement qui contient dans quelle web app je suis au niveau de 2IS à l'intérieur d'Azure. Donc typiquement, on regardait la première. Donc la première, donc pointe bien à l'intérieur de la web app web, celle qu'on regardait à l'instant. Je vais venir ici accéder à mon subsite. Donc mon subsite, j'ai juste changé les couleurs histoire que histoire qu'on puisse arriver à s'y repérer un petit peu, parce que trois fois le même template, c'est pas forcément très visible. Donc on voit toujours que je suis dans la web app web, mais cette fois-ci, le rôle est seconde web app. Donc on a bien une deuxième instance d'application web. Et donc de la même façon, on va venir accéder à mes assets, donc avec ma page test à l'intérieur, donc qui elle répond bien avec un site de type website et non plus de type web app. Donc de la même façon ici, je vais venir interroger mon site Full IIS, donc qui est la third web app et qui elle répond en web app 2. Donc on se rappelle bien, si on revient au niveau du code ici, on se rappelle bien ici avoir web app 2 donc, qui pointe sur la third web app. Donc après la même chose, je pourrais vous en faire grâce, mais la même chose ici, donc subsite. Ici, donc exactement le même subsite qu'avant, donc la même couleur, donc jusque-là tout va bien. Et la même chose pour les assets. Voilà. Donc la possibilité vraiment de déployer plus qu'un site à l'intérieur de Azure et de, on va dire, d'utiliser au maximum mon serveur ASP.NET qui est hosté dans Azure au lieu d'avoir une seule web application toute seule sur le serveur. Ensuite, donc nous passons au CDN. Donc CDN, l'acronyme de Content Delivery Network, que vous devez tous connaître déjà par des sociétés comme Akamai ou etc. Donc là, c'est le CDN donc, mis en place à l'intérieur d'Azure. Donc pour en bénéficier, il suffit juste d'utiliser Azure comme vous le faisiez d'habitude, avec vos web applications, etc., vos contenus hébergés dans le storage, pour pouvoir publier votre contenu directement dans le CDN. Alors, plusieurs types de stockage. Donc, par défaut au début, donc c'est uniquement au niveau d'un blob. Donc on avait la possibilité donc, dans un blob donc, de stocker des fichiers binaires et de prendre ce blob-là et de dire que tout ce qui va être contenu à l'intérieur de ce blob va être exposé dans le CDN. Donc automatiquement, lorsque le contenu sera accédé depuis votre application à travers certaines URL, le contenu serait redirigé au plus proche de là où la personne accède. C'est-à-dire typiquement des CDN aujourd'hui, je crois, avec Azure, il y en a approximativement 26 dans le monde. Donc ça permet vraiment d'éviter d'avoir des problèmes de ping ou etc. avec des accès de longue distance. Donc la nouveauté aujourd'hui, c'est de pouvoir stocker aussi du contenu dans un hosted service. C'est-à-dire, je vais avoir mon service, je vais mettre du contenu donc, à l'intérieur de ma web app comme je le fais d'habitude, et au moment où je la déploie, une partie de ce contenu-là va être automatiquement mis. Si tant est que j'ai fait la configuration, bien sûr, va être automatiquement mis dans le CDN. Alors, les quelques petites conditions à cela sont, c'est déjà de mettre ce contenu-là à l'intérieur d'un dossier CDN à l'intérieur du rôle, c'est la première chose. Que ce contenu soit accessible sur le port 80, donc ça c'est aussi un des prérequis puisqu'on parle de site web. Et enfin, que ce soit déployé en production. Malheureusement, on ne peut pas exposer du contenu dans un CDN à partir d'un environnement de staging. Parce que, comme vous le savez peut-être pas, dans Azure, vous avez deux environnements, le staging et la production, que vous pouvez swapper. Et donc ces deux environnements-là, le staging est uniquement là en tant que staging, comme son nom l'indique, et la prod, elle va justement être la seule à pouvoir accéder à cette feature. Et enfin, une autre nouveauté, donc ce contenu mis aussi dans le CDN, pas forcément des pages statiques ou des images, ça peut être très bien du code. Ce code-là donc, va être monitoré par le CDN et si des appels sont faits en fonction du query string, c'est-à-dire des paramètres différents passés au niveau du query string et du coup un rendu de la page différent, ces différents rendus vont tous être cachés dans le CDN. Ce qui va pouvoir justement permettre de stocker plus de variations. Et enfin, la possibilité d'activer le HTTPS par rapport à ce qu'on va stocker justement dans le CDN pour éviter des attaques du type man in the middle pour quelqu'un qui pourrait voir ce qui passe sur le tuyau et récupérer les informations si envoyé en clear HTTP. Et possibilité aussi de créer des domaines custom, c'est-à-dire de faire pointer vos propres domaines sur des entrées CDN. Une fois que par exemple vous ayez mis un site en cache statique, et le faire pointer sur votre domaine, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va accéder à votre site dans le monde, automatiquement, le bon nœud du CDN qui va répondre et pas uniquement le nœud principal sur lequel a été déployée votre solution. Alors, ensuite, donc, Elevated Privileges, donc ça c'est aussi une nouveauté, donc c'est la possibilité, donc, comme son nom l'indique, d'élever les droits. Alors on peut le faire à deux niveaux, on peut le faire au démarrage du rôle ou on peut le faire à l'exécution du rôle. Quelles sont les différences? J'aurais tendance à dire au démarrage du rôle, c'est dans le cas où on aurait besoin d'installer typiquement par exemple quelques vieux OCX ou des objets COM ou des choses comme ça, ou lancer une commande ou mettre à jour la base de registre de la machine, etc. pour un applicatif un peu particulier. On va pouvoir venir le, le faire à ce niveau-là, donc dans ce contexte d'exécution élevée. Ou alors directement pour l'application, puisque notre application est un petit peu sensible et fait des choses, j'aurais tendance à dire pas très catholiques par rapport à ce qu'on peut faire dans 2IS, et va vous demander des accès ou des modifications au niveau du système beaucoup plus complexes que ce que 2IS permettrait à un application pool standard. Donc un petit exemple ici, donc toujours pareil en XML, on a notre web role, on rajoute juste un élément à l'intérieur du XML, on va dire runtime execution context elevated. On en vient sur la deuxième partie donc elevated privileges, donc la partie dont je vous parlais en premier, donc à l'instanciation du rôle, on va pouvoir exécuter donc dans ces startup tasks, donc qui sont toujours des items de type XML à l'intérieur d'un fichier de config, un certain nombre de commandes. Donc je reprends un petit peu ce que je vous disais juste avant, donc un fichier CMD qui va inclure un regsrv32 sur un objet com ou sur ce genre de choses-là, l'exécution de fichiers MSI en mode silent ou plein d'autres choses. Alors, après, le type d'exécution est laissé à l'appréciation, c'est-à-dire on peut faire un type SAM, c'est-à-dire le serveur, une fois démarré, va, avant de se rendre disponible, attendre d'avoir fini l'exécution de ses tâches pour être mise à disposition, ou alors tourner en background, c'est-à-dire qu'on part du principe que ces installations ne sont pas forcément bloquantes, donc on les fait en background et puis on rend le service disponible, et puis l'application est accessible pendant que le process tourne derrière. Donc une petite démo. C'est pas vraiment une démo parce que le problème qu'il y a, c'est que là, il faudrait que je le fasse tourner dans le cloud et j'ai déjà préparé une démo, sachant que ça met au moins 10 minutes à monter. Donc comme on a un petit peu de temps et que le temps passe assez vite, je vous ai déjà préparé une petite application, donc juste avec la configuration à vous montrer, pour vous montrer un petit peu comment ça se fait. Donc ici, le plus simplement du monde, on va venir voir donc ici. Hop. Et agrandir un peu encore. Donc, comme je vous expliquais, donc très simple, startup, j'ajoute une task, donc je lui donne une command line et un contexte. Alors là, dans cet exemple-là, c'était intéressant. Je vais juste vous montrer le dossier, puisqu'en fait, ce que j'avais fait, c'est juste lui donner MVC3, parce qu'aujourd'hui, dans les types d'applications ASP.NET déjà disponibles dans Azure, on a ASP.NET Web Forms, le standard, ASP.NET MVC2, mais pas le 3 encore. Donc on a possibilité donc d'embedder directement les binaires de MVC3, les déployer à l'intérieur et utiliser ces solutions en MVC3 sans avoir à préinstaller les serveurs ou faire des choses comme ça, juste avec une tâche. Donc tout ça fera bien sûr partie du package une fois déployé dans Azure. Alors, deux derniers points intéressants. Donc là, on va parler plus de la partie marketplace, donc marketplace applications et marketplace data market. Qui a déjà entendu parler de Windows Azure Marketplace? D'accord. Vous avez bien fait de venir. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Donc marketplace applications, qu'est-ce que c'est? Typiquement, donc aussi connu sous le nom d'AppMarket, c'est une solution. En fait, qui permet d'exposer les applications donc, qui ont été développées sur Azure, donc qui sont faites pour être scalable, etc. Donc dans le contexte, on va dire qui leverage la totalité de la capacité de la plateforme Azure, mais qui sont fournies aux utilisateurs en tant que solution SaaS. C'est-à-dire, c'est un portail où on va pouvoir venir chercher, par exemple, une solution pour faire du HR ou des choses comme ça. Et à travers ce portail et à travers des partenaires Microsoft qui ont développé des solutions sur Azure, venir récupérer une solution donc, qui correspond aux besoins et après entrer en contact avec cette entreprise pour qu'elle provisionne les serveurs directement dans le cloud et pour que vous puissiez vous servir de la solution. L'avantage dans des solutions comme ça, c'est lorsqu'on parle de provisioning, on n'est pas en train de parler de plusieurs semaines. Au pire, c'est quelque chose qui risque de prendre une ou deux journées. Parce que c'est des solutions qui sont déployées en tant que package, en général multi-tenant. Donc ça permet d'avoir une flexibilité assez importante. Donc, comme j'expliquais, donc briques applicatives à utiliser pour accélérer des développements Azure, aussi dans votre cas à vous, de penser donc à une solution scalable, etc. que vous pourriez mettre en place, si jamais vous avez vraiment trouvé un focus au niveau business, et que vous puissiez mettre en place sur le market pour monétiser votre propre application, qui serait du coup marketisée à travers la plateforme Microsoft. On va passer à la partie que je considère comme la plus intéressante, donc le data market. Alors, qu'est-ce que le data market? Le data market, c'est... On va attendre un petit peu. Le data market, grosso modo, c'est une plateforme où on a donc un marché de données, pour traduire mot à mot. On a la possibilité donc de venir exposer ou de consommer des flux de données directement mis à disposition à l'intérieur de ce data market. Sur différents types d'informations, ça peut être sur la démographie, sur l'évolution des richesses dans un pays, etc. Donc plein d'informations qu'on va pouvoir venir consommer, croiser, etc. D'une manière assez simple. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors l'avantage de cette solution-là, et ça prouve un petit peu les capacités de la plateforme, donc basée entièrement sur Windows Azure. Donc avec cette histoire d'élasticité par rapport aux instances, j'en reparlerai juste après. Donc, point d'échange d'informations entre fournisseurs et consommateurs de données, c'est-à-dire moi, par exemple, je sais que j'ai un point de données très très intéressant sur les mœurs alimentaires des développeurs .NET, par exemple, et je veux pouvoir donner ce genre d'informations-là. Donc, je vais créer un entry point dans le data market pour pouvoir le publier, pour que les gens puissent venir s'y abonner. Alors, on peut rendre ce service payant. Mais il y a déjà énormément de feeds, en particulier aux États-Unis, typiquement sur les statistiques au niveau des naissances, au niveau des crimes ou des choses comme ça, qui sont entièrement disponibles sur le data market. Il suffit juste de s'enregistrer, de demander un accès aux données et c'est parti. Alors, ça c'est un petit point que j'ai ajouté, même si je ne suis pas un grand professionnel du pivot dans Excel. Mais il y a une possibilité assez simple, donc lorsqu'on a ces informations-là qui sont exposées sous forme de service au data, donc avec le modèle qui lie les différents objets ensemble, de venir les requêter directement depuis Excel. Donc pouvoir faire des tableaux, etc. Et de pouvoir s'amuser avec les informations directement sans avoir à ouvrir Visual Studio ou à faire des choses, j'allais dire, de développeur. Vraiment ce qu'on appelle un information worker. Donc ensuite, comme je vous disais, donc construire et monétiser son service. Pour espérer arriver à vendre ce genre d'informations alimentaires sur les développeurs, même si je ne suis pas persuadé que ça intéresse beaucoup de gens. Et enfin, donc intégration d'outils tiers pour faciliter la visualisation de données, on va voir juste après. On peut intégrer sur son propre flux, comme certains des fournisseurs déjà de données ont intégré des visualiseurs d'informations pour mieux comprendre et pour mieux appréhender les données qui sont mises à disposition. Alors, un dernier slide sur le data market qui lui est un petit peu plus technique pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne derrière. Donc, l'avantage du data market, j'en parlais juste avant, c'est que c'est une solution basée sur Azure. La façon dont fonctionne cette solution, c'est qu'elle va être capable de supporter la charge en fonction de votre service. C'est-à-dire que, imaginons donc, mon service compte a un succès phénoménal, j'ai plus de 100 000 requêtes à la seconde faites sur mon modèle de données. Ce que le data market est capable de faire, c'est voir que ce service-là, justement, est très utilisé et va être capable de spawner des rôles supplémentaires en fonction de l'utilisation de mon service. Et se rendre compte, par exemple, qu'un seul serveur, ce n'est pas assez, il va en démarrer 50. Et comme ça, tout le monde va pouvoir récupérer les informations cruciales pour pouvoir, justement, targeter les bonnes personnes. Donc, comme je vous dis, donc capacité automatique de scale-out, possibilité donc de surveiller, de mettre en cache les données externes. On le reverra sur le slide d'après. Donc voilà une petite représentation graphique juste pour avoir une meilleure idée de ce dont nous étions en train de parler. Donc un flux au data, l'utilisateur se connecte pour récupérer les informations. Donc différents types de connecteurs, donc le SQL Azure Connector qui se connecte directement sur SQL Azure, un connecteur de type web service, donc qui est capable d'interroger un web service pour récupérer des informations et les cacher. Et la même chose avec un third party cloud connector. Donc là, on est plus sur du custom, donc c'est-à-dire c'est moi qui vais venir créer mon propre connecteur sur des systèmes legacy ou des choses un petit peu plus anciennes, mais que je veux quand même pouvoir récupérer et utiliser à l'intérieur du data market. Donc la caching layer. Donc ici, Sur la droite, donc, les différents types de repository de données donc, qui va être interrogé par Data Market. Et le mapping store qui va permettre de dire donc entre ces différentes entités comment elles sont liées et comment les agréger lorsque on va vouloir faire une requête sur cet entrepôt de données. Donc là un petit peu le déroulement avec la récupération de l'information. Voilà. Donc une petite démo par rapport à ça. Allez. Décidément. Je voulais juste déjà vous montrer ce qu'est le data market. Donc voici le data market. Donc ici, je vais venir. Ah, j'ai été déconnecté. Bon, pourquoi pas. Je vais venir me connecter au data market. Bon, je vais stocker mes credentials. Donc ici, ce dont je vous parlais juste avant. Donc je vais dans My Data. Ici, donc on voit que je me suis abonné à deux types de sources. Donc Crime in United States et aussi World Development Indicators. Donc, ces deux feeds sont gratuites. J'ai juste eu à m'abonner et je peux les requêter, récupérer les informations à l'intérieur autant que je veux. Ici, petite subtilité donc par rapport à Marketplace. Donc ici, j'ai une clé donc qui va être la clé qui va être utilisée pour identifier mes requêtes en fonction de mon identifiant. Donc, on va venir directement justement à l'utilisation de cette partie-là avec le tout petit bout de code que j'ai écrit. Donc, j'ai écrit une application type console. On peut vraiment interagir à ce niveau-là après avec ces services-là dans n'importe quel type d'applicatif. Il n'y a absolument aucune limitation. Donc, on va venir regarder ce que je fais ici. Donc, on voit donc ici le nom donc du service. Que je ne vous ai pas montré dans la page d'avant, mais qui est affiché donc directement et disponible lorsqu'on s'abonne au service. Je lui donne comme credential, donc un network credential, donc qui va contenir mon adresse live, donc qui est mon identifiant sur la plateforme du data market, et ma fameuse clé qui va me permettre justement de requêter ces entrepôts de données que je peux régénérer au cas où. Donc ici, on va juste ouvrir la partie programme. Le plus simplement du monde, je fais une méthode à l'intérieur. Donc ici, je vais prendre à l'intérieur toutes les villes qui s'appellent Newport et classer le crime par année. Donc pour vous donner un petit peu l'imbrication des objets les uns avec les autres, donc toujours avec le modèle OData qui exporte les objets et les liens entre les objets. Donc là, on voit un petit peu une illustration de ça. Donc ici, le plus simplement du monde, je vais appuyer sur F5 et voilà. Donc là, je me suis connecté, j'ai récupéré les informations, j'ai fait tourner ma requête link, j'ai récupéré mes infos et les voici. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. J'étais un peu plus vite que ce que je pensais. Voilà, donc merci d'être venu. Si vous avez des questions, je suis tout disposé à y répondre. Et si vous n'en avez pas tout de suite parce que vous avez besoin de la réflexion, ou je ne sais, je serai présent au stand des experts donc, pour que vous puissiez venir m'interroger. Merci beaucoup et bonne fin de Tech Days.